Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Dans le premier épisode de ce reportage, nous avons donc plongé dans le passé du train. Quand la vapeur faisait tourner les locomotives, quand des compagnies privées précédaient la SNCF avec des noms romantiques, Compagnie du Nord, du Midi, Paris-Lyon Méditerranée, Compagnie de l'Ouest, du Paris-Orléans. De très nombreuses personnes travaillaient au chemin de fer. On a déjà rencontré les cantonniers qui s'occupaient de la voie, la garde traversée qui existait jusqu'en 1845, le lampiste chargé d'allumer la signalisation, les seigneurs, mécaniciens et chauffeurs de la locomotive, toujours en tandem et attachés exclusivement à leur machine, sauf à la fin de l'époque vapeur. La vapeur, c'est le truc de l'enfance de Jacques Fitamant, qui donc, depuis l'âge de 5 ans, collectionne et expose dans le sous-sol de sa maison de Plonévé-Porzay. Qu'est-ce que vous avez comme type d'objet ?
Comme type d'objet, alors, l'outillage du cantonnier, ici. Ensuite, tout ce qui concerne la locomotive à vapeur, ce qu'on y trouve à l'intérieur, ce qu'on trouve sur l'extérieur, etc. La façon de conduire une machine à vapeur, puisqu'on a une petite cabine de locomotive à vapeur. La façon de conduire, les costumes des compagnies avant la SNCF et des costumes de la SNCF. C'est assez complexe. Hein.
Des photos ? Des documents, en fait.
Des documents, il n'y en a pas tellement, hormis dans une pièce qu'on appelle le couloir. Là, il y a quelques documents au mur. Hormis les petits trains, il doit y avoir entre 600 et 800 objets.
Ouais. Comment avez-vous fait ?
Alors, la majorité du temps, c'était des dons. Moi, comme j'étais collectionneur, ceux qui le savaient venaient m'apporter des choses, me disaient qu'il y avait telle chose à récupérer à tel endroit, etc. Au début, ça a été comme ça. Je ne sortais pas un centime, bien sûr. Ça a coûté parce qu'il fallait se déplacer, il fallait trouver quelqu'un pour les transporter, mais c'était comme ça. Et à la retraite, j'ai un petit peu reconditionné tout ça pour voir un peu ce que je pouvais présenter. Et en plus, j'ai été, comme tout le monde, sur les sites internet et tout ça, voir s'il y avait des choses à récupérer.
Il y a des forums, des brocantes.
Ouais, ça je n'ai pas fait parce que c'est un petit peu cher. Hein. Et puis j'ai eu la braderie de Lille, j'ai oublié de vous le dire, la braderie de Lille. Extraordinaire. Ah là, là-bas, alors, un ferrovipate, comme on dit, un passionné de chemin de fer, là, il peut vraiment faire son bonheur.
Parmi les documents affichés, un panneau montre l'évolution des locomotives. La loco, je vous le rappelle, possède un tendeur, un petit wagonnet à l'arrière. C'est la réserve d'eau, avec par-dessus la réserve de charbon. Le charbon alimente la chaudière qui fait chauffer l'eau en vapeur, laquelle fait tourner le mécanisme des roues et elle s'échappe ensuite par les cheminées. Et donc, on doit la toute première locomotive au gallois Richard Trevithick, c'était en 1804.
Elle était minuscule et elle roulait à une vitesse fulgurante de 4,5 km à l'heure. Les choses vont évoluer, premier temps, avec la locomotive de Stephenson. Elle s'appelle la Locomotion, qui va dépasser les 40 km/h et qui va doubler des chevaux au galop, quand même. Tout ça pour arriver à la plus rapide au monde, la Mallard. C'est une Anglaise qui bat les records du monde de vitesse avec son train en 1935. 202 km/h. Jamais égalé.
À la vapeur.
À la vapeur. Le train, 202 km/h. Regardez l'engin, le TGV n'a pas grand-chose à lui envier.
Très belle, avec une ligne, quoi, vraiment.
Oui, carréné. Et nous, les Français, on a un ingénieur qui s'appelle M. Chapelon, qui va nous faire une locomotive qui, dès les premiers essais, tire son train à 200 km/h. Premiers essais. Et on a dit à ce monsieur, il faut détruire tout ça et vous prenez votre retraite. L'ère de la vapeur est terminée.
Et donc, je remarque quand même qu'elles sont de plus en plus grosses, évidemment. Hein. Parce que les trains, peut-être, s'allongent aussi, non ?
Oui, les trains s'allongent, les trains sont de plus en plus lourds, donc il faut des machines de plus en plus puissantes. Et les machines les plus puissantes de France, les voilà. Elles s'appellent les 241P. Les 241P, on voit le personnage debout à côté, le monstre. Elles ont été conçues à l'origine pour faire le Le Mans-Quimper et le Le Mans-Brest à la même vitesse que les électriques qui faisaient Paris-Le Mans. Elles ont fini leur service sur d'autres réseaux après, mais c'est vraiment des sacrés monstres de mécanique. Hein.
Oui, parce qu'en fait, oui, les électriques ont cohabité avec la vapeur. Enfin, les vapeurs ont cohabité avec les électriques.
Ah oui, tout à fait. Oui. Avec les électriques et même les diesels. Le diesel étant censé remplacer la vapeur, et en fin de compte, ça n'a pas été tout à fait ça. Alors, la plus grosse au monde, la Big Boy...
est américaine.
Bien sûr. Alors, il faut savoir que nos trains lourds, pour vous donner une idée, en Europe, sont de 800 tonnes. Cette machine, elle tire des trains de 9000 tonnes. Et à vide, toute seule, elle fait 550 tonnes sans son charbon et sans son eau. C'est démesuré, mais écoutez, on leur doit une sacrée chandelle, puisque ces machines de l'Union Pacific ont été conçues pour apporter de la côte ouest des États-Unis à la côte est tout le matériel pour remonter l'Europe après la guerre. C'est elle qui tirait des trains de 3,5 km de long, 9000 tonnes inimaginables pour nous, et qui faisait le boulot en passant par les Rocheuses où il y avait une pente de 11 pour 1000. Elle tirait les trains à 40 km/h.
Et elles sont jamais roulées en France ou en Europe ?
Non. C'est impossible de les faire rouler chez nous, on a des courbes trop prononcées. Ces machines-là, elles étaient allumées comme n'importe quelle machine à vapeur, mais une fois qu'elles étaient prêtes à prendre la route, quand elles allaient partir, quand elles allaient démarrer, le chauffeur avait devant lui une caisse avec une vitre blindée dessus d'un mètre de large, 40 cm de profondeur, sous laquelle vitre il y avait le charbon. Et ce charbon venait là-dedans à l'aide d'un bouton, qu'on appuyait sur un bouton. Le stockeur du tender, c'est-à-dire la vis sans fin, comme pour les céréales qu'on connaît, nous, ramenait le charbon dans la caisse, et une fois que la caisse était pleine, il appuyait sur le deuxième bouton. C'était des jets de vapeur qui chassaient le charbon dans le foyer.
C'était automatisé, en fait. On n'avait pas besoin de mettre une pelle, mettre le charbon à la pelle, en fait.
Ah, c'était fini. Il avait allumé son foyer de cette façon-là, mais après, il ne touchait plus une pelle. C'était énorme.
Il ne fallait pas l'éteindre, cette loco, en fait.
Je ne sais pas. Alors, il en reste quand même 4 aux États-Unis et y en a une qui roule, pas régulièrement, mais qui fait des trains spéciaux dans le Nevada. Ici, on se trouve dans l'espace locomotive à vapeur. Vitrine devant nous ne concerne que les objets qu'on trouve sur la machine à vapeur. D'abord, les macarons avant des locomotives. Locomotive fabriquée en France, le macaron CSFN, macaron de 1938, est en fonte. Locomotive fabriquée aux États-Unis et au Canada, le même, il est en bronze.
Alors CSFN, ça veut dire que ce n'est pas encore SNCF ?
Si, c'est SNCF, mais c'est pour la beauté du logo. Quand on lit CSFN, mais en réalité, c'est SNCF.
Vous voyez ? Oui, parce que là, vraiment, c'est clairement en désordre.
Ah oui.
Mais c'est vrai que c'est joli.
C'est le plus beau macaron de la SNCF, à mon point de vue. Bien sûr, je ne donne que mon point de vue. Vous avez derrière l'appareil de contrôle de la locomotive, le compteur, si vous voulez, avec au-dessous le mouchard, l'enregistreur papier. Ça s'appelle le compteur flamand. Après, vous avez tout ce qui est sifflet de locomotive, frein... niveau d'eau, j'en passe et des meilleurs, le matériel pour huiler et graisser. Et on trouve, j'en ai mis deux plaques de locomotive, la plaque de l'américaine 30R818. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la plaque du tender, c'est-à-dire la cuve à eau qui est derrière la locomotive. Et pourquoi 30R au lieu de 141R, comme ça aurait dû être marqué ? C'est un tender de 30 mètres cubes. Il y a eu dans la même série des 26R, des 30R et des 32R.
Les objets les plus nombreux dans la collection de Jacques Fitamant, ce sont donc les outils.
Dans l'outillage, ici, c'est assez surprenant. On coupait les rails à la scie,
ouais.
Je ne vous dis pas le truc, hein, 1h15 pour les plus performants. Et après, il fallait percer les rails pour mettre les boulons.
Ah ouais. Ça, c'est une perceuse à rails.
Ouais, une bicyclette, ça s'appelle comme ça. Vous voyez le petit foret de 8 mm, on faisait des avant-trous. Quand c'était fait, on prenait celle-ci. Le foret là-bas, il est de 25 mm pour agrandir le trou qu'on avait fait avant. Voilà. Bicyclette, perceuse à rails. Le petit carton que la garde-barrière avait, un, devant sa cuisinière, et deux, derrière sa porte d'entrée. Êtes-vous certain que vos barrières sont encore fermées ?
Il y a beaucoup de lampes, là, ici. Enfin, on croirait des lampes tempêtes.
Ce sont des lampes tempêtes, les quatre, là. Les deux grises, ce sont les lampes tempêtes de la garde-barrière de la SNCF. Un vert rouge, quand il y a un pépin. Vert neutre, tout simplement, pour l'éclairage. Et derrière, vous en avez deux autres, qui sont noires. Et ça, c'est du réseau breton. Le petit train qui a été supprimé en 1967. Il y en a une qui vient de Telgruc et l'autre de Plébin.
Quand vous dites réseau breton, c'est le train patate, ce qu'on appelait le train patate ?
Si vous voulez, oui. Le petit train de carré à Camaret. Voilà, pour nous ici. Et là, vous avez une lanterne de quai de Port-Launay, un passage à niveau de Port-Launay, du réseau breton, toujours. Deux lampes de chemin de fer travaux, et ainsi que la rouge et blanche qui est là-bas. Ce sont des lampes transportées sur les lieux, sur les chantiers à l'époque.
Vous avez beaucoup aussi, et c'est bien normal dans le musée, des matériels de communication.
Les téléphones blindés que vous voyez là, c'était des téléphones de voix et des téléphones de barrière. Il y en a un qui a des cloches. Celui-là sonnait, ne vous mettez pas en danger, n'allez pas traverser toutes les voies là, à la barrière. Ce côté-ci, il y a le même, sans cloche, mais vous levez le bras, vous tournez la manivelle et vous avez le même interlocuteur. Allô la gare, il y a un pépin au passage à niveau.
C'est en cas de problème.
C'est en cas de problème. Et sur la voie, c'était pour le personnel de voie pour appeler le dépôt ou la gare. Alors nous n'avions pas beaucoup ces téléphones-là. Nous avions, nous, les Duguay-Clin. Duguay-Clin. Pourquoi Duguay-Clin ? Puisque l'emballage, entre guillemets, ressemble à un home d'armure. Et c'est assez joli.
Totalement.
Et ça se faisait voler régulièrement à partir des années 70. Il y a une dame du centre Finistère qui était garde-barrière, qui a visité à 4 ans. Elle me disait que dans la même année, on lui en avait volé 3. Elle se levait le matin, il y avait des fils qui sortaient de la route, c'est tout. Il n'y avait plus rien du tout. C'est un bel objet. Vous voyez, écoutez, il ne faut pas mettre les doigts, hein, parce que ça, vous prenez une bourre, mais là, quelque chose de bien. Hein, j'avais été étonné.
Les costumes sont les pièces les plus remarquables de la collection Train-Vapeur. Jacques Vitaman possède certaines pièces uniques. Ces costumes habillent des mannequins qui viennent incarner l'épopée du Train-Vapeur.
Le contrôleur des années 60, il a toujours sur sa veste le macaron de 1938, c'est-à-dire CSFN, écrit en rond. Il a toujours ce macaron-là. Et au fond, la partie RATP, qui s'appelait avant 1949, non pas RATP, mais CMP, Compagnie du Métro Parisien. Vous voyez là-bas ?
Mais oui, mais c'est vrai, ça, on n'y pense pas, mais un métro à vapeur, ça paraît fou, parce qu'on est quand même sous terre, enfin, on ne s'asphyxie pas avec cette histoire.
Eh bien, le métro a été construit avec des machines à vapeur. Ensuite, bien sûr, on est passé à l'électrique, mais la construction, la réalisation, la pose des rails, tout ça a été fait par des machines à vapeur. On a du mal à imaginer tout ça. Les gens qui vivent dans une atmosphère enfumée complètement, bah oui, c'était comme ça.
Mais par contre, après, dès que les matériels roulants, ça a été électrique tout de suite ?
Oui, une fois que ça a été mis en place, ça a été électrique tout de suite.
On était en quelle année ?
Ça, c'est dans les années 1900.
Nous parlions du contrôleur, mais justement, voici des titres de transport qui méritaient d'être exposés.
Alors ici, vous avez des billets de train de 1900 de la compagnie du Paris-Orléans.
Qui sont très beaux.
Alors, magnifique, effectivement. Vous avez l'emballage qui est considéré comme une publicité. Le ticket lui-même, alors donc 1900, 1902, et celui de 1904, l'intérieur, il y a le déroulé de la ligne en carte d'état-major. C'est énorme, c'est énorme. À côté, nous avons les cadenas de réservation, c'était derrière le siège, ou celui-ci. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans la petite fenêtre ? On trouvait le petit ticket réservé avec le numéro de votre billet. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes assis à ma place. Hein. Là, il n'y avait pas de mystère. Le chauffage dans les trains, c'est début du 20e. Hein. On a eu des bouillottes de train. Celle-ci vient de Châtelain, à la gare de Châtelain. Elle appartenait à la gare de Châtelain, mais elle était dédiée à une comtesse, Madame de Kervé-Noël de Caste. Et des chaufferettes, bouillottes de l'eau, chaufferettes charbon. le bureau voyageur de la gare. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans le bureau voyageur ? La boîte à billets, bien sûr, avec les vrais billets de la SNCF, les deux cases de gauche. Alors, billets, on met le poinçonneur à l'heure. Voilà. Il a 130 ans. Hein. On prenait le ticket et on glissait là-dedans. Alors, il y a les tampons destination des colis, etc., des tampons, des timbres pour le courrier. Enfin, c'est un petit peu assez diversifié dans le bureau de la gare.
Ça fait un peu bureau de poste, en fait.
Bureau de poste, oui. Effectivement, hein, la compagnie de l'État faisait concurrence loyale à la poste, télégraphe, téléphone. Ça, c'est la chose la plus étonnante au chemin de fer. Ouais, lettres, petit colis, gros colis et volumineux. Ouais. C'était étonnant. Une autre boîte à billets, dite boîte à billets automatique, qui vient de Normandie, celle-là. Théoriquement, je dis bien théoriquement, quand on tirait le billet du bas, un autre apparaissait. Maintenant, ça, c'est dans le passé.
Et alors, le régulateur, expliquez-nous.
Le régulateur. Alors, le régulateur, c'est l'aiguilleur du ciel au chemin de fer. Ce monsieur, eh ben, il gère tout ce qui est train. Alors, comment ça ? Le chef de gare... Le train, il donne l'autorisation à son train de partir. Il appelle le régulateur, train, gare une telle, pardon, train numéro tant, à l'heure ou temps de retard. Le régulateur prend toutes les données des différentes gares, il a un écouteur sur une seule oreille et un laryngophone. Et lui, il va moduler les autres trains que celui-là va croiser. Voire retardé, etc., etc. C'est son job.
Donc, il trace à la main le graphique, le chronographique, enfin, le graphique temporel, si on veut.
Oui et non. Le graphique du haut qu'on voit ici, c'est le graphique mère. Il a été fait la veille. C'est la circulation des trains.
C'est ce qui est prévu.
Voilà. Lui, il a des feuilles de papier devant lui. Il répercute tout ce qui est non conforme à la circulation prévue. Et au bout de 4 heures, il s'arrête, il arrête son boulot. Son collègue s'assoit à sa droite, parce que c'est énorme. Hein. Il va faire une seule chose, c'est la transcription en bas des modifications apportées à la circulation. Oh, pardon.
Oui. Il y en a forcément, évidemment. Ah, ouais.
C'est énorme. Et en plus, on me l'a expliqué 4-5 fois, c'est du charabia. Ouais.
Et donc, en fait, ça donne une fresque, vous dites, pour une journée, c'est 7 mètres de large.
7 mètres 80 de longueur.
Mais sur une graphique. Grosse ligne quand même, une ligne avec
Là, nous sommes à Paris Saint-Lazare, on n'est pas à Port-Launay. Les régulateurs, c'était sur les grands axes. Je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense que toutes les grandes gares parisiennes, qu'elles soient du Nord et tout ça, elles avaient un régulateur, voilà. Ou des régulateurs, ouais. Bien sûr, on s'entend bien.
Et donc, il y a un certain nombre de livres, enfin, de catalogues, je ne sais pas.
Oui, des documents sur la vapeur, etc., qui se trouvent dans le musée, là. Et qui était dans le bureau de la gare. Hein.
Oui, c'est ça, mais c'était utile. C'était des utilitaires.
Ah oui, ça, c'était utile qu'on consultait tous les jours. D'accord. Ensuite, on a le Chex. Le Chex étant les horaires des trains à la SNCF. Celui-là, il est de 1942. Voilà.
Ouais. Donc, et
en haut, vous avez l'accident de la gare Montparnasse, 1895. Alors, le train est sorti de la gare par la fenêtre, c'est le cas de le dire, et il y avait eu un seul mort, un de trop, on est d'accord, mais un seul mort, c'est la marchande de journaux qui était là en bas. Le train lui est pas tombé dessus, mais elle a reçu une pierre de la façade qui l'a tué. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Après coup, on s'est dit que c'était une histoire de frein, puisque 1892, 3 ans avant, on installe sur les trains des freins. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Avant, pour arrêter le train, on mettait le pied dehors. Non, avant, il y avait la locomotive qui avait son frein. Et sur chaque voiture ou chaque wagon, il y avait une guérite qui dépassait du toit. Et là-dedans, il y avait un bonhomme avec un volant qu'on appelait le serre-frein. Alors, comment ça marchait ? La locomotive donnait, par exemple, 2 coups de sifflet. Je serre. 3 coups de sifflet, je desserre. Ça marchait comme ça. Et puis,
avec des manivelles, quoi.
Avec des manivelles. Visiblement, ça marchait, puisque les trains, ils s'arrêtaient. 1892, on monte donc des freins à dépression d'air sur les premiers trains. Visiblement, ça n'a pas marché, puisque le train rentre en gare à environ 40 km/h. Il essaye de stopper à plusieurs reprises, rien ne fait. Il tape le butoir, qu'il enlève, traverse la salle des pas perdus, on imagine le nombre de personnes qui étaient dans les gares à l'époque, tape la façade et tombe dans la rue.
Incroyable.
Enfin, pas un blessé dans le train.
C'est ça, une sorte de miracle quand même.
Exactement.
Malgré tout.
La collection de Jacques Fitamant permet aussi de mesurer le rôle du train dans l'histoire de France, surtout à certaines périodes.
Là, nous sommes durant la dernière guerre. J'ai fait une vitrine spéciale pour ça, parce que j'avais eu des objets. On trouve là-dedans, bien sûr, le drapeau à croix de Lorraine, des lanternes allemandes, une machine à écrire de propriété du Reich, c'est écrit sur le côté, avec un billet de 20 Reichsmark, pas d'Allemagne, mais d'occupation. Un laissé-passer pour prendre le train, qu'on appelait un Ausweis. Un grand tract avec des petits trous, il est un peu mangé par les mythes. C'est ce que les nazis mettaient dans les armoires des cheminots contre le sabotage. Et un tract, alors si vous passez au musée, venez voir ça, ça vaut le coup. C'est ce que la Royal Air Force a balancé sur les dépôts parisiens tout de suite après le 6 juin 1944. Après le débarquement, pour demander aux cheminots d'empêcher les Allemands de venir prêter main forte à leurs collègues sur le front de Normandie.
Ouais, parce que c'est stratégique le train, si on voit toujours là, les résistants qui font sauter les voies et tout, enfin, c'est...
Ouais.
Ça montre bien.
Oui, et puis c'est énorme, hein. Il faut savoir quel coûte quand même le nombre de cheminots parisiens qui ont été exécutés. Je parle d'exécution parce que pour faire peur aux autres, on en prenait au hasard, qu'on fusillait, c'était épouvantable. Le chiffre qu'on retrouve plusieurs fois, je pense qu'il n'est pas exact, on parle de 1567, c'est énorme, cheminots fusillés pour l'exemple entre le 7 juin et fin août. Je pense que ce n'est pas la vérité, hein, je pense que c'était plus que ça.
Poste 7.
Allô, poste 7. Entre-ouvrez l'aiguille.
Hein? Quoi? Faire dérailler le train? Mais quel train? La grue?
Qu'est-ce que tu fais là?
T'occupe pas, tire-toi, c'est pas le moment de rester.
Et le train, c'est aussi un patrimoine, dont il reste finalement peu de traces en ce qui concerne la vapeur.
Et on termine par les petits trains. Les petits trains, alors c'est la seule chose que je ne gère absolument pas. C'est pas mon truc du tout. J'ai mis 8 mois à réaliser ce petit réseau-là, et je me suis pris la tête. Je vous rassure, il fonctionne.
J'ai l'impression que c'est pas à vapeur.
Ben, c'est pas à vapeur parce que c'est électrifié, bien sûr, le modélisme. Et sur la gauche, on trouve la gare avec sa verrière, la remise à locomotive. Plus loin, la rotonde. La rotonde était l'espace où toutes les locomotives à vapeur se garaient. Et devant la rotonde, on a une plaque tournante pour orienter la locomotive qui y sort, justement. À côté, le château d'eau et le silo à charbon. C'était le système utilisé à l'époque de la vapeur.
Oui, parce que l'arrêt de la vapeur, j'imagine que ça a changé pas mal les infrastructures ferroviaires.
Ah, les infrastructures ferroviaires ont complètement changé après la vapeur. Et on s'est vraiment empressé de tout faire disparaître. Hein. À un tel point que pour les trains touristiques, pour trouver du matériel pour mettre de l'eau dans les tenders, tout ça, il a fallu souvent aller à l'étranger chercher parce que nous, on avait tout cassé. Tout ce qui était infrastructure pour la vapeur, les rotondes, c'est-à-dire les remises à locomotive et tout ça, on s'est empressé de détruire. Remise à locomotive, rotonde, plaque tournante, grue hydraulique pour mettre de l'eau, les silos à charbon, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. On a été un petit peu abrupt au sens où on n'a pas pensé à ce qui nous succédait. Et grâce à des filous, je prends l'exemple de Auray, dans la gare d'Auray. Le chef de dépôt avait eu un ordre d'amortissement, je m'explique, un ordre de destruction pour des machines à vapeur, un certain nombre. Le ferrailleur était payé par l'État, bien sûr. Et le chef de gare, le chef de dépôt, s'est arrangé, lui, pour qu'on lui laisse une des locomotives. T'es payé, tu me la laisses. Et on a monté un mur devant. Et 40 et quelques années après, on l'a trouvée derrière et elle roule maintenant. Voilà. Parce que des gens n'ont pas respecté l'obligation de détruire.
La collection de Jacques Fitamon est à vendre. Si vous souhaitez acquérir ces centaines d'objets historiques sur le train-vapeur, il vous en coûtera seulement 15 000 euros. En attendant, s'il a toujours sa collection l'été prochain, Jacques vous la fera visiter gratuitement dans le sous-sol de sa maison de Plonévé-Porzay.